un TSA, une schizophrénie, un rhume, c'est toujours basé donc sur des symptômes. Le TSA, le TDAH, ça va être une question de seuil, mais dans tous les cas, tu as la question du symptôme. Dans le HPI, bah, tu n'as pas de symptômes. Et si je veux faire un petit peu de provoque, les HPI n'existent pas, pas plus que les hyperactifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'idée d'un continuum. Comment on analyse un test de QI et finalement, comment on pallie aussi la question du HPI.
Charlotte Parzi-Jagla est psychothérapeute spécialisée haut potentiel intellectuel et très haut potentiel intellectuel. Elle est aussi l'auteur de deux livres fiables et rigoureux sur les HPI. Le premier s'appelle « 100 questions-réponses, questions de patients, réponses de spécialistes sur les adultes surdoués » et le deuxième s'appelle « 100 questions-réponses, questions de parents, réponses de spécialistes sur les enfants surdoués » et je vous les conseille tous les deux. Vous pouvez les retrouver en lien sur la description de cet épisode. Charlotte a une formation initiale de philosophie qu'elle a enseignée et on peut la retrouver aussi dans quelques vidéos super instructives sur YouTube. Je suis Raph et Intensément Podcast, le média qui vous accueille et qui explore l'univers des HPI et des neuroatypiques à la recherche des infos les plus fiables possibles, est ravi de s'être entretenu avec elle afin d'avoir sa vision éclairée sur ces sujets complexes. Et pour cet épisode, Charlotte Parzi-Jagla aborde la notion relativement complexe à saisir du continuum, en comparant haut potentiel intellectuel, HPI, et le bien mal nommé TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'un, le HPI, est un seuil arbitraire sur une échelle de mesure des capacités cognitives, le quotient intellectuel. L'autre, le TDAH, est un trouble du neurodéveloppement. Mais les deux partagent la particularité d'être des continuums, ou continui, ou continua, Enfin, les deux partagent donc la particularité d'être des continuums, c'est-à-dire, pour faire simple, si on prend l'exemple de la taille, votre taille, la taille de l'être humain, les limites et seuils entre petites, moyennes et grandes personnes ne sont pas évidentes. Et en dehors des cas extrêmes, il n'y a pas de différence entre une personne d'1m69 et une personne d'1m74. Enfin, j'espère pour vous. Eh bien, pour le TDAH, le HPI, comme pour le TSA, trouble du spectre autistique, c'est le même principe. Et c'est là que pour ce qui est des maladies ou troubles, entre en jeu l'aspect clinique, c'est-à-dire l'évaluation en consultation des comportements des personnes. Or, si on s'en tient aux infos fiables et à la recherche, le HPI, ce n'est pas un trouble ou une maladie. Pourtant, de nombreux et nombreuses expertes ou publications donnent des listes de symptômes du HPI. Pour quelles raisons ? Charlotte Parzi-Jagla a une explication rarement entendue à ce sujet et qui est super pertinente, je trouve. L'occasion en plus de faire de bonnes mises au point et rappels sur le HPI, les maladies mentales ou la science, et d'évoquer aussi tout un tas d'idées fausses et de stéréotypes, comme l'idée qu'on puisse avoir un HPI sans avoir un haut QI si on a un TDAH, ou le fait que le TDAH ne soit qu'une question d'attention ou d'hyperactivité. Attention donc, comète audiovisuelle en vue, je vous laisse avec Charlotte, bonne écoute et bonne visionnade.
Sur le plan scientifique, il n'y a qu'une seule appellation, c'est le haut potentiel intellectuel, uniquement construite autour du test de QI. Et si je veux faire un petit peu de provoque, les HPI n'existent pas, pas plus que les hyperactifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'idée d'un continuum. C'est-à-dire que ça va poser la question d'un seuil à partir duquel, finalement, on passe dans le domaine du HPI, ou alors un seuil à partir duquel on estime finalement que la concentration elle va pas être assez bonne, assez efficace pour l'adaptation et où du coup on va se retrouver finalement dans la catégorie des TDAH. C'est-à-dire finalement entre voilà quelqu'un qui est amorphe ou quelqu'un qui est branché sur une centrale nucléaire, à partir de quel moment on détermine qu'on est dans quelque chose qui est anormal, c'est-à-dire qui se décale en fait de la norme. Pareil au niveau du QI, hein, c'est-à-dire selon une définition théorique pure, un HPI, c'est quelqu'un qui a un QI de 130. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le test de QI, il est fiable en lui-même. Par contre, la chose qui n'est pas fiable, c'est la personne qui le passe. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas fiable, c'est qu'en réalité, selon les conditions un petit peu dans lesquelles on est, ça va varier. Alors, il faut pas, profiter de cette brèche pour dire qu'on peut passer d'un QI de 100 à un QI de 140 selon si on a dormi correctement la veille ou pas, parce que ça, c'est pas vrai. En réalité, il y a une erreur de mesure qui est assez faible. C'est pour ça, souvent, qu'on va parler d'un intervalle de confiance quand on va donner le QI de quelqu'un. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que selon effectivement l'état psychique de la personne, on peut bouger un petit peu. Les seuls grands écarts qu'on peut observer, c'est dans des cas, par exemple, des enfants qui ont subi des maltraitances importantes, qui sont vraiment très renfermés sur le plan cognitif. Là, on va mettre de la psychothérapie et puis on peut voir un enfant qu'on va tester au départ qui va être assez bas et finalement il aura gagné, on va dire, pas mal de points, plus que l'erreur de mesure habituelle, parce que finalement, bah, on aura réussi à apaiser. Mais ça, c'est des cas qui sont assez exceptionnels et en réalité, c'est finalement pas la réelle mesure du QI au départ qu'on avait faite, mais la mesure finalement du QI d'un enfant qui était à un moment donné en proie ou une anxiété massive ou au fait qu'il s'était renfermé. Voilà. En réalité, le test de QI permet de donner une tranche quand même valide, quoi. Il y a des gens qui vont me dire, ben, à 120, tu peux être HPI parce que tu as un TDAH et du coup, si on enlève le TDAH, ben, tu monterais à 130. Donc déjà, je sais pas comment ils arrivent à estimer ça. La réalité, c'est que du coup, tu as quand même un fonctionnement à 120 avec ton TDAH, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que tu es surdoué si tu as un fonctionnement qui, finalement, est ralenti par un TDAH. Si, par exemple, ben, tu es, je sais pas, champion en athlétisme, mais que tu as une cheville foulée ou, je sais pas, une malformation de la cheville, on va dire, ah, ben, si ça se trouve, si tu n'avais pas cette malformation, tu pourrais gagner les championnats du monde. Mais en réalité, tu as cette malformation, donc tu ne peux pas être plus performant que ça. Le TDAH, effectivement, on sait que ça impacte. Alors, c'est plus complexe que juste dire l'attention va faire baisser certains scores, par exemple en mémoire de travail ou en vitesse de traitement. Parce qu'en réalité, quand on a un TDAH, on l'a depuis l'enfance et ça peut avoir créé un manque de confiance dans sa capacité à finalement mener des processus complexes de réflexion. Donc, on peut avoir, par exemple, chez un TDAH, une épreuve qui n'est pas censée être fortement corrélée à l'attention, je ne sais pas, par exemple, l'épreuve des cubes, qui va être échouée parce qu'en fait, il va y avoir de l'impulsivité, une émotion qui va être intense de « je ne vais pas y arriver ». Et souvent, les TDAH, quand ils ont une impulsivité, un sentiment comme ça, un peu d'échec, ils ont tendance à avoir la réflexion qui va complètement bloquer. Et donc là, ce n'est pas tellement le processus attentionnel qui est en jeu, c'est plus le fait que sur le plan émotionnel, leur cerveau va être un peu comme sidéré. Donc c'est plus complexe que juste parler de la problématique attentionnelle, parce que, encore une fois, si on reste cantonné à la problématique attentionnelle, ça va être beaucoup les épreuves finalement de mémoire de travail ou en vitesse de traitement. On peut peut-être même réfléchir un peu en amont sur... comment, à un moment donné, on est dans la question du HPI ou du TDAH. Donc, pour rappeler, c'est un continuum. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins une certaine intelligence et à un moment donné, paf, on passe dans le seuil du HPI. On a tous plus ou moins des difficultés d'attention à focaliser et à un moment donné, c'est assez intense et on passe là, du coup, dans une autre catégorie. Finalement, si tu regardes dans les autres pathologies, dans des problématiques, tu as toujours une symptomatologie qui va être... observable. Alors, je ne sais pas, par exemple, si tu as un cancer, tu vas avoir des examens sanguins qui vont être évocateurs d'un symptôme. Tu vas avoir, je ne sais pas, des douleurs ou des difficultés à divers niveaux. Si, par exemple, tu as une schizophrénie, ben, tu peux avoir des hallucinations, tu peux avoir, pour ne citer que ça, des retraits sociaux, une perte de capacité d'autonomie. Si tu as un rhume, ben, tu vas avoir le nez qui coule. Donc, tout ça, ça va être des symptômes qui vont être directement évocateurs d'une pathologie. Alors que pour, par exemple, le haut potentiel ou le TDAH, on n'est pas dans la question d'une symptomatologie au sens strict, mais dans la question d'un seuil et donc d'un continuum. C'est-à-dire, de nouveau, cette idée de, à un moment donné, il y a une rupture. En clair, tu ne peux pas avoir un demi-cancer, par exemple, alors que tu peux avoir une attention qui n'est pas terrible, mais qui n'est pas encore dans la zone du TDAH. Pareil, tu peux pas avoir un demi-rhume si t'as le nez qui coule, même si ton nez il coule un tout petit peu, ben t'as un rhume en fait, un petit rhume, mais t'as un rhume quand même. Finalement, c'est ça qui permet de faire la distinction entre ce que c'est qu'une maladie et ce que c'est finalement qu'une particularité du fonctionnement, comme par exemple le TDAH ou le HPI. Donc quand je dis que finalement ça existe pas, c'est une façon un peu provocatrice de dire que il y a pas de réalité biologique et de symptomatologie, en tout cas dans le HPI. Alors dans le TDAH, on peut encore discuter de ça, mais dans le HPI, il n'y a pas ça. c'est là où il faut finalement regarder un petit peu ce qu'on sait de manière générale. Donc, on va dire la plupart des maladies un petit peu communes, on a quand même des bonnes compréhensions sur les bases biologiques. Donc, par exemple, le cancer, on sait que c'est des cellules qui perturbent la régulation normale de la croissance, de la division des cellules. Donc là, les bases biologiques, elles sont très, très bien connues. Pour ce qui est du domaine de la santé mentale, c'est toujours plus compliqué parce que pour la grande partie des pathologies mentales, c'est de la clinique et c'est pas forcément de la biologie. Par contre, la schizophrénie et le TDAH, c'est des domaines qui sont très bien étudiés et sur lesquels on a quand même beaucoup de recul aujourd'hui. Donc, on a fait beaucoup de découvertes sur les neurotransmetteurs et aux facteurs génétiques. Au niveau du spectre de l'autisme, c'est pareil. On a pas mal de recul aujourd'hui. Par exemple, en 1980, on commençait à parler déjà de spectre de l'autisme, même si finalement, c'est que en 2013 qu'on a abandonné l'appellation du syndrome d'Asperger pour finalement considérer l'autisme de façon beaucoup plus vaste. Donc ça, voilà, ce qu'on sait, c'est assez déterminé. Après, il y a des bases biologiques qui sont moins étudiées. Donc, par exemple, les troubles de la personnalité, ça, on sait que c'est encore en train de se restructurer, qu'on va probablement faire des refontes sur les catégories. On commence à avoir une vision beaucoup plus complexe, en fait, de ce que c'est que la personnalité. Et on se rend compte qu'il y a moins de catégories comme ça figées et tranchées au niveau de leur construction. Et pour ce qui est des HPI, là encore, ça fait partie finalement des domaines dans lesquels on a assez peu d'informations, c'est-à-dire on connaît les aspects neurobiologiques, mais voilà, on sait que certaines régions du cerveau sont parfois impliquées, mais on n'en sait pas grand-chose. Finalement, ça renvoie un peu à la question de qu'est-ce que c'est que la science. C'est-à-dire quand souvent on entend dire dans les discussions « Ah, ben, j'ai lu un truc, c'est scientifique ». Et en fait, scientifique, pour eux, ça veut dire, c'est l'équivalent de, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est crédible, alors qu'en réalité, la science, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est-à-dire que tous les jours, la science, elle prouve des choses qu'elle désapprouve, en fait, le lendemain. Donc, finalement, la science, c'est un mouvement vers la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et ça, c'est très important, peut-être, de l'expliquer, pour finalement aussi se rendre compte avec humilité de ce qu'on comprend pas encore au niveau de ces particularités aussi diverses qu'elles soient et ce qui reste encore à découvrir. Donc la science, elle est dans un mouvement, elle est vivante, elle est dans un mouvement permanent d'évolution. Alors il y a des trucs, je sais pas, qu'on peut attester, on va dire la Terre est ronde. Mais t'as encore, je sais pas, aujourd'hui des platistes qui vont me dire non, en fait elle est plate. Je pense que quelque part, finalement, ces platistes, ils ont compris un truc fondamental, c'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment donné, c'est attesté par la science que ça a une valeur de vérité. C'est-à-dire la science, pour rester de la science, il faut qu'elle soit tout le temps remise en question et il faut qu'elle soit tout le temps dans ce mouvement de recréation. Donc finalement, on peut considérer la science comme non pas la vérité, mais comme un certain niveau de preuve. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, par rapport au HPI, par rapport aux troubles de la personnalité, on a un niveau de preuve qui est encore assez mince. La chose qu'on sait sur les hauts potentiels, sur le plan statistique, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout de valeur individuelle, c'est qu'a priori, c'est un facteur plutôt très favorable, qu'il y a moins de maladies mentales, qu'il y a moins de problèmes de santé, une meilleure longévité. Alors, je crois qu'il y a même des études qui tendent à dire que finalement, le cliché de l'intello à lunettes, c'est-à-dire qu'ils auraient davantage de problèmes de vue et qu'ils seraient plus inhibés, etc., c'est assez contredit par les études qui ont été faites sur le sujet. Mais ça reste des études qui sont, qui doivent être encore confirmées, finalement. Donc, la question qui va se poser, c'est de se dire comment on détermine qu'est-ce que c'est qu'un HPI alors que finalement, on ne connaît pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire, si tu me dis, moi, a priori, ma famille, on a une bonne longévité, j'ai une bonne réussite sociale, j'ai pas de problème de vue, ça veut pas dire que je suis HPI, en fait. C'est encore une fois des conditions statistiques, qui sont externes au phénomène. Pour finalement récapituler, quand t'as un TSA, une schizophrénie, un rhume, c'est toujours basé donc sur des symptômes. T'as certains, comme le TSA, le TDAH, ça va être une question de seuil, mais dans tous les cas, tu as la question du symptôme. Dans le HPI, tu n'as pas de symptôme. Tout ce qui est clinique, c'est effectivement comment on évalue des symptômes, donc comment un professionnel va évaluer des symptômes pour finalement, à un moment donné, dire ça correspond à cette catégorie diagnostique quand il s'agit effectivement des pathologies. Alors, c'est intéressant, donc toute cette idée que le diagnostic est clinique, ça, évidemment, tu sais d'où ça vient, hein, de tous ces ouvrages qu'on va trouver dans les plutôt rayons développement personnel que dans les rayons sciences, qui vont construire une sorte de mythologie autour d'un profil de personnalité du haut potentiel intellectuel. Et finalement, on peut dire, alors sans l'accuser évidemment, hein, mais que Jeanne-Sio Fachin, elle a écrit un bouquin, L'enfant surdoué, qui était un best-seller, hein, et qui a beaucoup introduit dans le grand public la question du haut potentiel intellectuel. C'est elle, il me semble, dans son ouvrage L'enfant surdoué, qui a introduit cette idée que l'intelligence serait qualitative et pas quantitative. Donc, sous-entendu que il y aurait une subtilité comme ça du raisonnement, une particularité du raisonnement qu'on ne retrouverait pas dans la population générale, qu'on retrouverait spécifiquement chez le HPI. Et là aussi, noté dans cet ouvrage, qu'il fallait assortir le test de QI à un test de personnalité. Ce qui sous-entend qu'il y aurait des traits de personnalité qui seraient caractéristiques du haut potentiel intellectuel. Si on prend un peu tous les critères qui ressortent, c'est finalement tous les critères et les caractéristiques qui correspondent à la personne qui va pas très bien, quoi. C'est-à-dire l'hypersensibilité, l'anxiété, l'échec scolaire, je sais pas, les problèmes de méthodologie, enfin, il y a plein de choses comme ça. Finalement, on n'a pas un profil d'un HPI, on a un profil de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est-à-dire, dans le tout venant, on a plein d'enfants qui ne sont pas HPI, qui sont hypersensibles, qui ont un besoin important de sens pour adhérer au système scolaire. On a beaucoup de gens qui sont fâchés avec le système scolaire, beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié leur scolarité. C'est quand même plutôt une minorité d'élèves qui disent « Ah ben moi, j'ai adoré l'école, je me suis épanouie, non pas sur le plan social, mais sur le plan... intellectuel et de la connaissance. » Donc voilà, finalement, c'est presque un peu aux horoscopes, hein, c'est-à-dire tu prends quelque chose de très général et tu peux l'appliquer à un grand nombre de personnes. Finalement, on peut s'interroger pourquoi, à un moment donné, elle en est venue, elle et bien sûr plein d'autres, hein, à associer comme ça une sorte de symptomatologie, de caractéristique finalement du haut potentiel. Peut-être, c'est l'hypothèse que j'en fais, que finalement, c'est une sorte de déformation un peu professionnelle. C'est-à-dire, le psychologue, c'est un clinicien en partie, selon sa spécialisation. Donc, qu'est-ce qu'il est habitué à faire? Il est habitué à regarder, répertorier une symptomatologie, un réseau de symptômes, et à un moment donné, de valider en termes d'intensité ou de fréquence pour finalement parler de quelque chose. Donc, c'est un peu spontané comme réflexe, un conditionnement réflexe d'essayer de trouver une sorte de symptomatologie. Finalement, toute la psychologie, toute la psychiatrie, elle est clinique. C'est-à-dire que même dans le diagnostic du TDAH, on va utiliser des tests neuropsychologiques pour finalement étayer le diagnostic final, mais qui est clinique. À la fin, c'est un psychiatre qui statue et on peut même statuer sans passer un bilan neuropsychologique. Donc même le TDAH, il y a une symptomatologie qu'on peut finalement identifier. Donc le réflexe assez logique d'un psychologue, c'est d'identifier un peu cette symptomatologie, quoi. Ça, c'est important parce que finalement, c'est peut-être là qu'on comprend comment on est arrivé dans une forme d'errance et de désinformation sur le sujet, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on a sorti le sujet un petit peu de son domaine pour l'amener dans quelque chose qui était pas très cohérent et vrai sur le plan scientifique, quoi.
J'espère que cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser. Je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que cet épisode n'aurait jamais pu exister sans le financement des contributeurs et contributrices de ce média que je remercie intensément. Le financement participatif est ce qui le fait vivre et vous partager un maximum d'infos, d'entretiens et de témoignages. Si vous désirez vous aussi faire partie de la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et rétribuer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Un énorme merci à Charlotte Parzijagla pour cet épisode. Il va y en avoir d'autres ou il y en a déjà eu, ça dépend de quand vous allez regarder ou écouter cet épisode. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.